Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Villes engorgées, santé altérée, pollution atmosphérique et sonore dénoncée, planète en danger. La mobilité de demain est en discussion et les débats s'annoncent houleux. Thermique, électrique, hybride, à pied ou en deux roues, nos modes de déplacement interrogent nos usages et nos envies profondes. Dans la trajectoire environnementale et sociale actuelle, nous sommes à un tournant majeur. Face à la consommation énergétique en augmentation, à la dépendance aux énergies fossiles, doit-on prôner la frugalité et s'interroger sur nos usages des véhicules, ou bien chercher des solutions du côté de la technologie et des innovations? Entre état de conscience et confort de vie, spécialistes et politiques tentent de dessiner ce monde de la mobilité. Mobilité, comment nous déplacerons-nous demain? C'est la question posée à nos invités. Laurent Castagnette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de l'École centrale de Paris, fondateur du bureau d'études BCO2 Ingénierie et auteur du livre Hervor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée, un livre paru aux éditions Éco-Société. Et à vos côtés, Hervé Brulé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et en seconde partie d'émission Dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste Mathilde Gérard qui nous livrera le choix info de la semaine avec une enquête américaine sur les régimes alimentaires les plus faibles en impact climatique. Et enfin, notre escale verte nous emmènera en Normandie et dans le Perche, avec l'artiste Joël Aux-Enfants qui nous parlera de son projet artistique de plantation de haies réalisé avec des agriculteurs locaux. Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaï Morales avec la petite équipe complice Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission toujours réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Déborah Dagobert.
L'objectif de la loi mobilité, c'est d'apporter des solutions pour tous, plus efficaces, plus propres, plus accessibles. En rendant publiques toutes les informations sur les services de transport, on permettra plus facilement de développer des applications pour vous aider à démarrer un trajet en covoiturage. On veut aussi pouvoir avoir un billet unique sur votre téléphone, que vous puissiez avoir à la fois les vélos en libre service, le train, les transports en commun. L'objectif, c'est en un clic de pouvoir combiner tous les modes de transport. On veut aussi développer les mobilités propres et actives, notamment le vélo. C'est l'objectif du plan vélo pour à la fois permettre d'avoir des itinéraires protégés pour le vélo avec le forfait mobilité durable, 400 euros, sans fiscalité, sans charge, que votre employeur pourra vous donner si vous faites du vélo ou du covoiturage. La première des priorités, c'est l'entretien du réseau, avec 70% d'investissement de plus dans les 10 prochaines années que ce qui a été fait au cours de la dernière décennie.
C'était une déclaration d'Elisabeth Borne, alors ministre chargée des Transports, puisque c'était le 26 novembre 2018. Un message toujours d'actualité, Hervé Brulé.
Oui, tout à fait. La loi d'orientation des mobilités qui était présentée par la ministre a poursuivi son cheminement parlementaire, puisque nous avons eu une première lecture dans chacune des chambres, plus une nouvelle lecture à l'Assemblée. Il reste maintenant, au mois de novembre, la nouvelle lecture au Sénat, puis une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Donc la loi devrait être promulguée avant la fin de l'année. Et donc ces fondamentaux qui ont été rappelés par la ministre sont toujours là. Trouver des solutions de mobilité à nos concitoyens pour qu'ils puissent mettre fin ou diminuer la pratique de l'autosolisme et que chacun des territoires puisse avoir une solution de mobilité, des solutions de mobilité, un choix qui puisse répondre aux besoins de tous les publics fragiles ou déplacements, par exemple domicile-travail, qui sont une problématique particulière.
Alors juste rappelez-nous peut-être pourquoi est-ce que du coup les discussions sont toujours en cours.
Les discussions sont toujours en cours parce qu'à l'issue de la première lecture, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire réunissant le Sénat et l'Assemblée n'a pas trouvé de conclusion positive, sachant que l'ensemble des dispositions font consensus. Il reste un point qui a fait l'objet d'un débat, qui est celui pour certaines intercommunalités prenant la responsabilité d'autorisation organisatrice de mobilité, des moyens qui sont donnés à ces intercommunalités, solution qui sera trouvée dans le projet de loi de finances. Et donc c'est ce point qui a conduit à la poursuite de la discussion parlementaire.
Laurent Castagnède, alors il faut préciser quand même pour nos auditeurs qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la mobilité, les déplacements routiers au quotidien, un des volets majeurs, mais nous reviendrons dans une émission ultérieure donc sur les trafics maritimes et aériens, donc ce sera effectivement un autre sujet, on ne peut pas tout faire en ce temps qui nous est accordé, mais le routier c'est vraiment au cœur aussi des problèmes exposés. Hein. Si je résume bien, dès qu'on parle mobilité, on pense à pollution atmosphérique, pollution sonore, le trop-plein de véhicules thermiques, la question des énergies fossiles, le réchauffement climatique, et puis il y a cet objectif de neutralité carbone en 2050. En un mot, ces débats-là, Laurent Castagnède, vous les concevez comment? Vous les recevez comment?
Déjà, la notion de neutralité carbone, elle est quand même à un horizon où les gens qui en parlent, ils seront plutôt vieux, en espérant qu'ils ne soient pas morts d'ici là, vous voyez. Donc en fait, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est notre incapacité à infléchir la tendance actuelle. C'est-à-dire, avant de se donner un objectif de neutralité carbone, il faudrait commencer à faire baisser les émissions globales, je veux dire. Hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, au niveau mondial, elles continuent d'augmenter très régulièrement. Même si en France, pour ce qui est des émissions territoriales, une certaine baisse est calculée, elle est juste calculée, elle n'est pas réel parce qu'on est dépendant d'importations, on est dépendant de trafics internationaux, maritimes et aériens qui ne sont pas dans les calculs. Donc en fait, il ne faut pas se leurrer, les émissions du français moyen, l'empreinte carbone, continuent d'augmenter doucement. Donc le premier sujet, c'est d'infléchir sérieusement avant de se donner un objectif à 30 ans.
En sachant qu'on est aussi dans une société qui a du mal à se passer des voitures. Le pays est organisé autour de ça aussi. Hervé Brulé, les zones rurales sont dépendantes de ce moyen de transport. Il y a un problème de l'étalement urbain. Mais la fin des véhicules diesel est annoncée pour 2030. Elles-mêmes, où est-ce qu'elles iront? Peut-être à la casse, mais peut-être iront-elles engorger les pays du Sud. Finalement, ces problèmes-là, c'est à la fois faire baisser nos émissions, mais faire en sorte qu'elles ne se déplacent pas non plus ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est clair qu'il faut d'abord, dans un premier temps, nous arriver à faire une réelle inflexion des émissions de gaz à effet de serre. Les chiffres sont sortis il y a 2-3 jours et qui montrent une diminution. Mais par exemple, pour le transport, cette diminution est relativement faible et fait suite à 2 années d'augmentation. Donc l'inflexion, elle est encore véritablement à venir. Et donc il faut arriver à conjuguer cet objectif-là avec la réponse aux besoins de nos concitoyens pour que justement, ils aient la possibilité, pour un certain nombre d'entre eux, de ne plus être tout seuls dans leur voiture, de mettre fin à ce qu'on appelle l'autosolisme, donc de covoiturer, de partager leur voiture avec d'autres personnes. Et puis, pour ceux qui le peuvent, d'abandonner la voiture et de passer à un autre mode de transport. Ce sont les enjeux qu'entend traiter cette loi pour justement prendre un virage important en matière de mobilité.
Laurent Castagnède, la demande, parce que cette fameuse demande, c'est sûr qu'on peut aussi proposer alimentairement du très riche, très sucré, très salé, et à un moment, il faut canaliser.
Ce qui me gêne un peu, c'est que on a l'impression d'avoir une discussion dans laquelle on a un urbanisme qui a été mal organisé, et puis finalement des solutions de mobilité qui n'existent pas et qu'il faudrait mettre en place, la faute à de mauvais urbanistes. Et en fait, je pense qu'on n'analyse pas assez les raisons profondes de la situation dans laquelle on est, et c'est-à-dire qui remonte à un petit peu plus d'un siècle. C'est-à-dire pourquoi finalement la voiture individuelle s'est-elle installée comme au cœur du système de notre mobilité. Je pense que tant qu'on n'analyse pas cela, on proposera des solutions qui risquent de faire des effets rebonds que l'on peut expliquer assez facilement. En fait, les sociologues, ça fait maintenant plus de 50 ans, d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, se sont rendus compte que le problème de mobilité qu'on a, c'est qu'on a mis à disposition des masses, des transports rapides et pas très chers, notamment la voiture individuelle, mais on peut penser aussi à certains trains de banlieue qui vont avec, qui fait que finalement les gens, ils raisonnent surtout en coût marginal de ce déplacement et en temps de transport, par exemple pour aller travailler ou pour aller chercher les enfants à l'école ou pour aller dans des lieux de commerce. Et en fait, si on facilite en fait le transport des gens, on prend le risque, qui s'est avéré depuis donc plus de 50 ans, d'avoir un effet rebond sur les distances. Donc en fait, je pense que ça, on l'a pas encore bien intégré, le fait que on continue un petit peu à faire rêver les gens de transport plus rapide sans considérer qu'en fait, ils vont augmenter les distances.
Alors du coup, comment se désintoxiquer de la voiture et comment trouver un équilibre aussi pour répondre à la fois aux besoins, quand même, à une demande nécessaire? Et est-ce que ça passe par une technologie innovante ou est-ce que ça passe par une autre prise de conscience, une frugalité? Alors, partons peut-être d'abord sur la technologie innovante. Est-ce qu'elle peut être une source de solution? Hervé Brulé.
Dans les technologies innovantes, ça dépend de quoi on parle. Si on parle effectivement de tout ce que permet le numérique, c'est-à-dire tout ce qui va se développer suite à l'ouverture grandissante des données et qui font que proposer un service, une solution de mobilité sera beaucoup plus facile parce que les données de mobilité, de disponibilité, de vélo en libre service, d'horaire, ne serait-ce que de navette de bus ou de train, seront ouvertes correctement et permettront donc de développer des services qui font que ce sera facile de trouver autre chose que sa voiture individuelle pour se déplacer d'un point A à B. C'est clair que là, la technologie est un élément important et le développement du numérique est en train d'apporter beaucoup de solutions et beaucoup de facilité justement vers ce redéploiement, vers d'autres modalités de déplacement. Si on parle de technologie de véhicules, je pense que la mutation vers l'électrique est une condition absolument nécessaire à l'atteinte des objectifs. La simple conversion du parc en véhicule électrique n'est pas l'objectif ni de cette loi, ni de, je pense, de la politique publique qu'il faut mener. Il faut changer les comportements, diminuer le besoin de voitures individuelles et en plus faire la conversion du parc. Mais cette technologie-là, elle n'est pas suffisante en elle-même.
Laurent Cassignède, l'électrique alors ?
Avant de parler de l'électrique, juste le recours à la voiture individuelle. Effectivement, on a bien l'objectif, il n'y a pas de problème là-dessus, d'essayer de diminuer sa proportion d'usage. Mais il faut peut-être, pour certains qui connaissent les écrits d'Ivan Illich dans les années 70, il voyait venir en fait le monopole radical de la voiture individuelle, c'est-à-dire en fait, au fur et à mesure qu'on l'a mis dans la disposition, dans la main des gens, les distances se sont allongées. Et en fait, ces distances-là sont devenues incompatibles avec la marche à pied ou le vélo. Juste une petite statistique très très simple. En 1960, le trajet domicile travail en France, c'était en moyenne 3 km. En 1970, la voiture se développe en France dans les années 60, 1970, c'est passé à 6 km. Et depuis 2010, on est à plus de 15 km. Donc aujourd'hui, finalement, se dire, tiens, on va développer le vélo, oui, mais vous parlez à des gens dont le travail est à, on va dire, en moyenne, à plus de 15 km. Donc c'est très difficile. Ce qu'il faut qu'on arrive, à mon avis, à bien intégrer, c'est que la facilitation dont on parle là, moi je pense qu'il faut qu'elle adresse plutôt le confort, en fait, mais pas la vitesse. Donc ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à rapprocher physiquement, je dirais très simplement à vol d'oiseau, le domicile du travail, le commerce, les services, tout ça, on a besoin de les rapprocher physiquement, de sorte que des moyens plus doux, plus petits, moins rapides, puissent être de nouveau accessibles, je dis de nouveau, puisque donc dans les années 60, beaucoup de gens allaient à pied ou à vélo au travail.
Alors comment avez-vous réagi à l'annonce de Porsche de sa voiture électrique ?
Déjà, si vous regardez les salons de l'auto, la plupart des voitures électriques qui sont mises en avant, ce sont des très très gros véhicules. Parce que certes, ils sont chers, donc la clientèle, sauf aide de l'État très très forte, la clientèle, c'est plutôt des gens très aisés. Donc on se retrouve avec des très gros véhicules électriques dont on peut penser qu'ils ne vont faire que accentuer le poids du parc. Puisque si on met ces véhicules en ville, vous comprenez que les gens qui sont à pied en vélo ont peur de croiser ces gens-là. S'ils se font voler la priorité, ils se font massacrer. Comme d'ailleurs il y a quelques jours à Berlin, où il y a eu un très gros accident de 4x4 qui a fait... Donc l'Allemagne, c'est quand même la patrie de la voiture puissante et très grosse. Et donc, il y a eu quelques volées de bois vert entre élus autour de Berlin sur le fait qu'il fallait peut-être interdire des véhicules trop lourds dans les centres-villes, tout simplement. Donc la voiture électrique, il faut pas croire non plus que tous on pourra l'avoir pour des questions de disponibilité, de métaux, d'extractivité. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la voiture électrique, ce n'est pas la tendance actuelle de la voiture où on va substituer une voiture thermique par une voiture électrique. Je pense qu'il y a des priorités et la priorité de la mobilité électrique, pour moi, c'est d'abord les deux roues. Il y a les grandes villes chinoises très polluées, ça fait déjà plusieurs années que vous ne voyez plus circuler un scooter thermique. Donc c'est les deux roues qui devraient tous passer à l'électricité, les solutions elles existent.
Les taxis, les bus ?
Les taxis, les bus, tous les véhicules qui circulent et qui font beaucoup de kilomètres en ville tous les jours. En revanche, donc ça monopoliserait déjà beaucoup de batteries. Et pour le reste, je pense que ça serait plus une hybridation légère, mais plutôt généralisée, qui devrait être la priorité. En tout cas, la voiture électrique pour tous, il ne faut pas en rêver. Ce n'est physiquement pas possible. Et en plus, ça serait sûrement encore plus d'embouteillage si on continue à avoir des voitures toujours plus grosses, fussent-elles électriques.
Hervé Brulé, est-ce que ces questions-là, elles sont soulevées dans vos discussions ou pas ? Et Laurent Castagnette faisait aussi référence au fait que équiper le parc automobile de moteurs électriques, en tout cas, ça sous-entend aussi de disposer de métaux rares et que la production d'électricité aussi est dans cette proposition et qu'on sait que la France veut se désengager du nucléaire. Donc voilà, c'est pas si simple, mine de rien, d'envisager le tout électrique, j'entends.
Effectivement, les choses sont complexes. Si on parle dans un premier temps de l'étalement urbain, qui est effectivement une problématique particulière, donc dans les objectifs, alors après, ça dépendra comment chacune des collectivités responsables va les appliquer et va s'en saisir. Mais en tout cas, dans les objectifs, tant de la politique d'urbanisme, bien entendu, mais aussi maintenant dans la loi, très clairement dans la politique de mobilité, il y a l'objectif de lutte contre l'étalement urbain. Ensuite, les offres de mobilité, je pense qu'elles peuvent quand même apporter beaucoup à des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture et qui continueront à habiter quand même loin de là où ils travaillent, quoi qu'on essaye de faire pour rapprocher les logements des zones d'activité.
Mais ça ne se fera pas tout de suite.
Tout de suite, donc il faut trouver des solutions et il faut justement, c'est un des éléments clés de cette loi, que dans tout le territoire, il y ait une, ce qu'on appelle l'autorité organisatrice de la mobilité, qui analyse ça, qui propose justement des solutions de déplacement. Dans un premier temps, c'est la première étape de cette loi, c'est faire en sorte que dans tout le territoire, eh bien, il y ait une autorité organisatrice qui réfléchisse et qui propose des solutions de mobilité pour qu'il y ait un véritable choix possible de nos concitoyens.
Oui, donc ce que vous dites, c'est plutôt viser l'aménagement des villes, des couloirs spécifiques pour les deux roues, l'électrification des transports en commun, etc.
Quoi. Oui, une grosse priorité quand même sur le covoiturage, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est facile. Il faut que les gens sautent le pas, mais c'est quand même relativement facile à partir du moment où on organise bien les choses, où les gens sont sûrs de pouvoir revenir quand ils ont pris le covoiturage dans le sens aller, qu'ils sont sûrs de trouver un trajet pour le retour. Donc il y a quelques freins comme ça, mais une bonne organisation permet quand même de déclencher les choses. Et il n'y a pas de frein fondamental à cette pratique du covoiturage. Mais il y a beaucoup de projets. Hein. Nous, on a recensé, je crois, près de 75 projets territoriaux axés sur le covoiturage.
Ça, c'est quand vous dites projet, ça vient des communes ou ça vient de petites entreprises
ou de collaboration entre des start-up, des collectivités. Quand même, la communauté de communes sur ses déplacements du quotidien est quand même un acteur important. Et c'est un peu l'équipe du texte, d'ailleurs, qui demande, avant fin 2020, à chaque intercommunauté de se positionner sur la prise en compte de cette compétence. Et si elle le fait pas, à ce moment-là, c'est la région. Donc, on a cette organisation qui va se dessiner, intercommunauté et région, à titre de coordination, à titre d'aide à l'ingénierie, parce que c'est pas simple. Hein. Donc, quel bouquet proposer est une question complexe. Donc, le covoiturage, c'est quand même une grosse priorité. Et puis, effectivement, les aménagements que vous indiquez pour développer le vélo, développer les itinéraires cyclables pour qu'il n'y ait pas ce frein, sachant qu'il y a quand même une proportion, y compris dans les trajets de faible distance, de moins de 5 km, encore une forte proportion, voire une majorité de déplacements en voiture. Donc là, il y a quand même de la marge, où là aussi, dès lors que la piste cyclable est là, dès lors que le système de prêt de vélo peut être développé. Enfin, il y a plein d'initiatives qui se développent. C'est assez facile de passer de la voiture au vélo, voire à la trottinette, sur un déplacement de 2-3 km.
Laurent Castagnède.
Oui, sur le covoiturage, alors on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, mais moi personnellement, je pense que le covoiturage, ça rendra service très ponctuellement à des cas particuliers, mais je ne crois pas que ça puisse être quelque chose qui soit véritablement significatif sur l'ensemble. Je vous citerai par exemple un fait historique qui appuie ce que je dis. Pendant le second conflit mondial aux États-Unis, vous aviez donc une volonté de réserver l'essence au domaine militaire. Donc aux États-Unis, juste pour vous dire, pendant 3 ans de mémoire, on a construit quasiment aucune voiture neuve. Donc le marché de production, tout était orienté vers la construction de bâtiments militaires et de véhicules militaires. Et donc on a demandé à la population américaine de surtout moins consommer d'essence pour réserver cette essence aux armées. Et notamment, il y a eu des publicités qui étaient très frappantes aux États-Unis. Donc il y avait des associations de covoiturage qui étaient développées, poussées, aidées par l'État. Et avec comme publicité une affiche sur laquelle vous voyez une grosse décapotable à l'américaine avec un autosoliste au volant, et sur le siège passager en filigrane, il y avait Adolf Hitler en filigrane, et il y avait écrit « Si vous roulez tout seul, vous roulez pour Adolf Hitler. » Donc, rejoignez une association de covoiturage. Donc, vous voyez, on est dans une situation de difficulté, pas de pénurie énergétique, mais vraiment de se rendre compte que c'est d'ordre prioritaire que de réserver l'essence aux armées. Mais en fait, ça a fait un flop complet aux États-Unis. Donc, j'ai du mal à imaginer une situation aussi importante pour faire du covoiturage, et vous voyez le résultat. Alors, certes, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait que le pouce levé au bord de la route. Mais
c'est pour ça que
j'ai mis des réserves sur le fait. Alors, ça peut peut-être marcher dans des cas très particuliers, je veux bien. Le grand paradoxe de la mobilité que l'on voit depuis 50 ans, c'est que quand on met en place un moyen plus rapide, effectivement, pendant 1 ou 2 ans, on voit que la population qui l'utilise, elle gagne un peu de temps. C'est ce qu'on lui a vendu. Effectivement, elle gagne un peu. Vous installez une nouvelle ligne de RER, les gens qui habitent pas très loin de la nouvelle station, effectivement, ces gens-là, statistiquement, ils vont gagner un peu de temps. Donc, on peut s'en satisfaire. L'ennui, c'est que lorsqu'on regarde ensuite au bout de 10 ans et 20 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le système, il s'est adapté à ce nouveau moyen de transport plus rapide et on a créé de l'étalement urbain. Et finalement, les gens, ils ont gagné du temps pendant une phase très provisoire qui se mesure en mois ou en quelques années, pas plus. Donc c'est ça qui est très embêtant, c'est qu'on est dans une situation un peu de pompier qui veut chercher des solutions, et c'est très louable de sa part, sauf qu'il ne faudrait pas que les solutions que l'on mette en place, ça consiste à augmenter une vitesse qui ne sera que provisoire, qui va coûter beaucoup d'argent, surtout si on développe des infrastructures, pour se rendre compte finalement qu'on aura créé de l'étalement urbain. Donc ce qu'on a besoin, c'est de créer de la multipolarité. C'est-à-dire que les grandes métropoles qui sont étalées ne soient pas physiquement, ne fonctionnent pas sur la base de plein de gens à la, je dirais, à la Democracity ou selon la charte d'Athènes. Alors Democracity, c'était la ville idéale selon General Motors au salon de 1939 à New York, où vous aviez métropole idéale, où vous aviez des villes industrielles, des villes de logement, etc. et que des transports entrent, voilà. Ou la charte d'Athènes qui, dans les années 30, avec Le Corbusier derrière, proposait un petit peu la même chose. Donc il faut qu'on arrive à avoir des métropoles qui soient en fait multipolaires. Et multipolaire, ça sous-entend que l'on va devoir décentraliser des activités, décentraliser à la fois de Paris vers les métropoles, mais surtout des métropoles vers leur périphérie. Les activités, c'est aussi le commerce, pour que, avec des transports moins rapides, et à mon avis, il faut qu'ils soient plus chers, ce qui n'est pas du tout la tendance actuelle. C'est pour ça qu'on a beaucoup de ventes de SUV. Les gens, pour le même budget, ils peuvent se payer une voiture plus lourde. Et du coup, vous avez un tiers des voitures qui sont plusieurs centaines de kilos trop lourdes, parce qu'en fait, le prix d'achat des voitures continue de baisser à voiture égale.
Oui, alors que le pour s'équiper d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride, aujourd'hui, tous les foyers ne peuvent pas le faire. Hervé Brulé, est-ce que vous travaillez aussi avec des experts comme Laurent Castagnès, comme ou d'autres chercheurs scientifiques qui ont fait cet état des lieux, qui remontent dans le temps et qui finalement ont une expertise, un retour sur le terrain et qui peut aussi éclairer?
Alors, on travaille effectivement avec tout un écosystème, y compris des scientifiques. On avait, avant, pour élaborer cette loi, on a mis en place ce qu'on appelait les assises de la mobilité, où il y avait des dizaines de groupes de travail, où on a justement essayé de que tout le monde puisse échanger, puisse proposer des solutions, et c'est ça qui a inspiré une bonne partie des mesures de la loi. Donc effectivement, on a ce type de réflexion. Ensuite, nous, on doit mettre en place les éléments qui permettent de déclencher cette modification de comportement, qui permettent d'impliquer tous les acteurs dans la recherche de solutions. Effectivement, trouver, proposer, organiser des services de mobilité différents sur chaque territoire. Les employeurs aussi. Donc, il y a un élément important de la loi qui est que la question du domicile-travail devra faire partie des discussions annuelles au sein des entreprises. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va parler de tas de choses, de salaire comme d'habitude, mais aussi de déplacement domicile-travail pour mettre en place les solutions entre employeurs et salariés par rapport à ces déplacements. Et après, ça s'accompagne de différents dispositifs comme le forfait mobilité durable, par exemple, qui est prévu par la loi et qui sera défiscalisé jusqu'à 400 euros et qui permettra à l'employeur d'aider le salarié a utilisé des modes plus doux, moins émetteurs de gaz à effet de serre pour se déplacer dans son quotidien, domicile, travail. Le télétravail aussi, enfin c'est tout un panel de solutions qu'il faut discuter dans l'entreprise, parce qu'une partie des déplacements quand même sont fortement influencés par les déplacements domicile-travail. Ensuite, sur la conversion du parc, effectivement, les véhicules électriques sont pour l'instant plus chers à l'achat, mais il y a des dispositifs d'aide qui sont mis en place. Il y a le bonus-malus, évidemment. Il y a les primes à la conversion qui ont été recentrées sur les ménages modestes, justement, pour permettre aussi à ces ménages modestes de passer et de convertir leur parc.
Et quel est votre levier sur l'industrie automobile? C'est-à-dire que l'industrie automobile aussi doit prioritairement peut-être se reconvertir, imaginer les véhicules de demain, en sachant que les pays asiatiques, on le sait, hein, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, avancent à marche forcée, vont venir envahir ou inonder le marché européen, si ce n'est pas déjà fait. Il y a un retard qui est pris sur ce terrain-là. En Europe, comment est-ce que vous mettez des choses en place? Quelles sont vos discussions à ce niveau? Parce que là, on parle quand même des entreprises.
Oui, alors il y a un contrat stratégique de filière automobile avec ce sujet qui est assez central dans ce contrat stratégique. Il y a un certain nombre d'obligations également, hein, qui issues notamment des textes européens pour plafonner l'émission globale de la production automobile des constructeurs, avec des objectifs de diminution des gaz à effet de serre dans les véhicules qui sont vendus par les constructeurs. On en entend un peu parler puisqu'il y a une échéance importante en 2021. Donc ça fait partie des choses qu'on travaille avec les constructeurs. Il y a un programme d'accompagnement aussi sur la reconversion des sites diesel. Donc toute une série de choses pour justement accompagner cette mutation. Et puis il y a aussi, le président de la République en a parlé il y a quelques mois, un projet d'avoir une capacité à produire en Europe des batteries. Et parallèlement, la réglementation européenne va, elle, évoluer pour s'affiner sur la question de l'éco-conception des batteries et sur la question du recyclage, puisque vous en avez parlé, c'est un sujet dans l'électrique que d'avoir sur l'ensemble du cycle de vie quelque chose qui soit
éviter le gaspillage,
soit maximum durable. Et donc tout ça est en train de se mettre en place effectivement.
Laurent Castagnède.
On a parlé de deux choses. Le domicile travail, je voudrais faire un petit rappel historique, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un siècle, on va dire, lorsque vous aviez une usine et puis vous avez besoin de pas mal d'ouvriers, bon, ils venaient à pied, ils habitaient pas très loin. Si votre usine grossissait et que vous dépassiez la capacité finalement du nombre d'employés actifs dans l'environnement immédiat, vous étiez obligé vous-même de payer des cars, enfin c'était les propres camions de l'entreprise qui allaient chercher, qui allaient faire du ramassage finalement. Donc en gros, le coût de tout le transport motorisé était complètement à la charge de l'employeur et puis c'était du temps perdu en fait pour ces ouvriers qui du coup travaillaient un petit peu moins à l'usine. Et en fait, en un siècle, on a complètement transféré finalement à peu près à 100% la charge et le temps passé par le salarié, enfin à sa charge à lui et à son temps à lui. C'est-à-dire dans le temps de travail, le temps de transport, il apparaît absolument pas. Le coût, c'est le salarié qui le prend en charge. Donc on est allé clairement beaucoup trop loin. Alors je dis pas qu'il faut forcément revenir à dire maintenant on va passer des 35 heures aux 40 heures, mais 40 heures déplacement domicile-travail inclus et payé par l'employeur, ce qui serait évidemment peut-être un peu exagéré et assez violent. Mais je pense que c'est quand même dans cette direction qu'il faut réfléchir. Donc ça, c'est pour l'aspect domicile-travail. Mmh. Ensuite, côté constructeur, depuis plusieurs années, on s'est soit sur finalement le résultat de valeurs homologuées en CO2, en grammes de CO2 par kilomètre. Alors, on va pas passer du temps. Je vous renvoie à Hervor, évidemment. Il y a des dizaines de pages sur l'optimisation réglementaire.
Votre livre, voilà. Je rappelle.
Oui, l'optimisation réglementaire qui consiste à constater que l'écart entre les émissions réelles et les émissions homologuées n'a cessé de croître. Alors, récemment, avec la nouvelle réglementation, il a chuté un petit peu, mais il va certainement repartir à la hausse. Mais finalement, on se repose sur un essai. Et pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas au niveau réglementaire. Le Japon l'a fait, je vais vous le préciser, mais en tout cas pas en Europe, de se dire mais est-ce qu'on va pas réglementer sur les gabarits et la puissance des véhicules? Aujourd'hui, avec un permis B, on peut rouler en ville avec un véhicule de 3,5 tonnes. C'est un peu démentiel. Donc là, il y a un énorme souci de se demander mais est-ce qu'il faut pas que le permis B soit limité par exemple à 1,5 tonnes? Là, je parle de masse totale, c'est-à-dire un véhicule qui pèse une tonne à peu près. Et puis si vraiment pour le travail, par exemple, on a besoin d'un véhicule plus lourd, ça s'appelle un véhicule utilitaire, qui sera bridé en vitesse, histoire de ne pas faire d'amalgame entre des véhicules professionnels et des véhicules personnels.
Ce que vous dites, c'est que par exemple, à l'image de la vignette critère, hein, qui interdit l'entrée dans les villes de tel ou tel véhicule polluant, il pourrait y avoir une vignette qui interdirait l'entrée dans les villes de tel ou tel véhicule massif.
Exactement, mais c'est ce qui s'est passé au Japon. Alors ça avait été lancé dans les années 50, ça s'appelle les K-Cars ou Keidijo Charge, passez-moi l'accent. Donc, il a été lancé dans les années 50 au Japon, au départ sans succès. C'est-à-dire, finalement, c'est de limiter complètement un gabarit. Donc, on en voit un petit peu circuler des fois des voitures coréennes ou japonaises qui sont un peu étonnantes parce que c'est un peu des boîtes à chaussures très étroites, hein, vous voyez. Mais parce qu'en fait, il y a une réglementation au Japon qui a octroyé des grandes facilités de déplacement et des coûts réduits, facilités de déplacement dans les villes, c'est-à-dire notamment des parkings adaptés à ces véhicules, interdits aux véhicules de gabarit plus grands, des péages moins chers, des taxes moins chères. Et ce marché s'est finalement développé avec, de mémoire, 10-15 ans de retard, on va dire à partir à peu près des années 60, parce que les Japonais, donc là c'était les constructeurs japonais, vous voyez, c'est même presque une mesure de protectionnisme vis-à-vis de l'emploi local, que d'avoir finalement créé une catégorie de véhicules pas puissante du tout. C'était des dimensions, longueur, largeur, hauteur, limitée à une certaine dimension, qui aujourd'hui doit plus ou moins correspondre à une petite Clio haute, et une puissance qui était limitée à quelques dizaines de kilowatts. Donc en gros, quelque chose comme 50-60 chevaux. Voilà.
Et pas pour des grands trajets en tout cas.
Aujourd'hui au Japon, c'est un tiers du marché.
On peut faire la réflexion aussi, Laurent Castagnède, de ceux qui, durant les vacances et qui ont une famille, doivent emmener et la famille et les valises, etc. Il y a quand même cette problématique et que souvent, les familles pensent aussi à ces déplacements ponctuels, certes, mais qui leur permettent aussi de rester potentiellement en France.
Oui, mais vous
pas prendre l'avion.
Vous trouverez même pire. Vous trouverez des gens qui disent non, j'ai absolument besoin de ce 4x4 parce que quand je vais au ski, si jamais il neige, je n'ai pas envie de chaîner dans le dernier kilomètre. Et donc, il me faut un 4x4 toute l'année. Et puis, comme je veux pas louer mes chaussures, du coup, il me faut forcément un coffre très grand. Oui. Des excès comme ça, il va falloir qu'on réfléchisse à
nos usages.
Une adéquation entre la fréquence d'un usage qui parfois est rare et le fait qu'on l'utilise toute l'année pour rien.
La mauvaise fortune à la lumière rare de nos nuits de pleine lune, de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court circuit de ton indifférence, du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Cette fois, elle porte à bout le bras un bout de toi, peut-être, vêtue d'un beau costume. La mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois aucune quand je te regarde.
C'était Keren Anne, La mauvaise fortune, et nous poursuivons notre émission sur la question de la mobilité. Comment nous déplacerons-nous demain? Question posée à Laurent Castagnède, ingénieur de l'École centrale de Paris, fondateur du bureau d'études BCO2 Ingénierie et auteur du livre Hervor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée, un livre paru chez Éco-Société. Et avec nous Hervé Brulé, adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la Transition écologique et solidaire.
N'émettez pas de CO2, vous consommez donc déjà pas de carburant. Le silence, c'est reposant, vous pouvez pas imaginer.
Les piles à combustible hydrogène sont assemblées à côté de Grenoble chez Symbio. Symbio, qui vient d'être racheté par Michelin, signe que des grandes entreprises voient dans l'hydrogène une des énergies du futur, une énergie propre.
On reconnaît facilement un véhicule hydrogène associé, c'est que quand il reste à l'arrêt stationné à un endroit, il y a une petite flaque d'eau qui se crée en dessous. C'est ni plus ni moins que l'écoulement d'eau naturel qui sort de notre pot d'échappement.
Ils étaient 50 employés début 2018. Ils seront 200 à la fin de l'année.
Ça, c'est quelque chose d'assez magique que de se dire qu'au lieu d'importer des ressources fossiles qui viennent de l'autre bout de la planète, on va demain pouvoir rouler avec du pétrole de chez nous qu'on a produit avec nos propres ressources, nos propres compétences, et qu'on va ainsi développer une filière locale qui est créatrice d'emplois sur nos territoires.
Car l'hydrogène vert vient d'ici, des énergies renouvelables. Barrages, panneaux solaires, éoliennes produisent de l'électricité. L'électricité qui n'est pas directement consommée arrive dans cette nouvelle division d'Engie, créée il y a tout juste 7 mois. Ici, l'électricité est transformée en hydrogène. À Grenoble, une division spéciale du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, travaille sur les usages futurs de l'hydrogène.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, dans les solutions, on a parlé de l'électrique, on a parlé donc des deux roues, du covoiturage, on n'a pas parlé de l'hydrogène. Il y a aussi les véhicules hybrides, on ne pourra pas tout aborder. Les agrocarburants polluants, enfin, finalement, dans les solutions parfois proposées, il y a aussi des problèmes. Là, l'hydrogène, c'était un reportage donc diffusé le 21 août 2019 sur France 3. L'Isère, en pointe sur l'hydrogène, c'est un hydrogène vertueux, celui-là, Laurent Castagnède.
Oui, effectivement, aujourd'hui, si vous achetez de l'hydrogène en France, il y a beaucoup plus de chances que qu'il ait été fabriqué avec du méthane, en fait, par un procédé qui s'appelle le vaporeformage. Et donc, dans ce cas-là, vous dites, à ce moment-là, plutôt avoir une voiture GNV, après tout, elle polluera légèrement plus, mais au moins, on n'aura pas ce processus industriel en amont. Alors, certes, l'air liquide qui est concerné, surtout, dit que c'est provisoire pour ce qui est de l'hydrogène de mobilité, mais bon, disons que l'hydrogène, s'il veut à peu près être vert, effectivement, je pense plus, comme c'est le cas du reportage, d'avoir de l'hydrogène fait à partir d'électricité renouvelable en excès, ce qui est, a priori, une bonne solution. Le deuxième sujet, c'est que l'hydrogène, en revanche, c'est un gaz très très léger qui nécessite d'être comprimé. Alors, il existe des recherches tout de même pour avoir des substrats solides, mais c'est pas du tout si évident. En tout cas, aujourd'hui, l'hydrogène, on peut pas l'imaginer dans chaque station-service. Ça coûterait beaucoup trop cher dans l'état actuel d'avoir des compresseurs à 700 bars dans la station-service du coin. Donc, c'est pour ça que c'est une solution qui marche avec des flottes qui vont se refouler, parce que c'est bien un carburant, l'hydrogène, hein, qui vient prendre leur hydrogène à quelques endroits dans la ville, mais pas du tout dans l'ensemble des stations-service. Ça serait beaucoup trop onéreux. Et ça peut être donc une solution pour certains types de transports. J'imagine pas que ça puisse être du coup généralisé.
C'est-à-dire certains types.
Mais c'est-à-dire des transports qui sont compatibles avec le fait qu'on se remplisse son réservoir à un endroit donné régulièrement. Voilà, ça peut être typiquement le cas des flottes d'entreprises, flottes de taxis, voilà.
Hervé Brulé.
Oui, c'est le constat qui est effectivement partagé par tous et qui est l'orientation du programme gouvernemental sur le développement de l'hydrogène, puisque il y a deux axes. Il y a soutenir quelques projets innovants. Il y en a 11 qui ont été pré-retenus dans un appel à projets récent sur l'hydrogène, donc des projets territoriaux de flottes basés sur l'hydrogène. Et en parallèle, il y a un appel à projets en cours. Les résultats ne sont pas encore sortis, mais un appel à projets en cours sur des sites industriels de production d'hydrogène, effectivement, non pas à partir de méthane, mais à partir de photovoltaïque ou d'énergie éolienne, pour avoir une production décarbonée de l'hydrogène. Et l'enjeu, effectivement, il est là aujourd'hui, c'est de se mettre, développer cette nouvelle énergie, certes, mais de manière décarbonée. Sinon, ça, on a rien résolu, en effet.
Alors, quid du financement prévu dans la loi mobilité, de cette mutation économique, industrielle, sociétale, etc. Hervé Brulé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en sachant que il y a des propositions qui peuvent être un petit peu reçues de façon houleuse, comme prélever sur les transports routiers 2 centimes par litre pris sur l'avantage fiscal du gazole, c'est ce que j'ai cru comprendre, et que ça donnerait 140 millions. Bien sûr, pour les citoyens, ça paraît normal, mais pour les entreprises, peut-être moins.
Alors, il y a plusieurs aspects de financement. Effectivement, la loi mobilité a prévu un certain nombre de financements pour accompagner et susciter ces mutations, et on a un certain nombre d'appels à projets qui sont lancés. On a prévu de mettre 350 millions d'euros sur les mobilités actives en 7 ans. Donc on a déjà un premier appel à projet qui est sorti avec 150 projets d'itinéraires cyclables. On a beaucoup d'appels à projets sur de l'ingénierie. On a des fonds qui sont distribués par les préfets pour justement accompagner tous ces projets de mobilité innovante. Et donc vous retrouverez tous ces éléments sur le site de France Mobilité, qui est l'initiative qu'on porte et qui permet à l'écosystème de la mobilité de partager les projets, de partager les bonnes expériences et d'échanger pour justement susciter tous ces nouveaux projets. Donc vous retrouverez ça sur ce site que je vous conseille de
visiter. On mettra en ligne sur le site de l'émission.
Voilà. Concernant effectivement les financements, ça a été dit et ça a été acté dans la loi mobilité, ça se traduit dans le projet de loi de finances qui n'est pas encore déposé, qui n'est pas encore voté, bien entendu. Mais le projet, c'est effectivement de financer avec les ressources actuelles qui étaient déjà dédiées, plus deux sources de financement, une augmentation de la TICPE pour les professionnels et une taxation un peu plus importante de l'aérien, qui va donc contribuer à financer les mobilités du quotidien.
Qui était le vœu, effectivement, d'Elisabeth Borne.
Voilà, tout à fait.
Laurent Castagnède.
Oui, sur le financement, je voudrais préciser, dans l'inconscient collectif, l'automobiliste, ça fait un siècle qu'il pense qu'il est en fait une vache à lait. C'est une expression qu'on entend parfois. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans les années 30, il y avait déjà les associations d'automobilistes qui pestaient contre le fait que l'essence était très chère. Elle était beaucoup plus taxée qu'aujourd'hui, à environ 85%. Il y avait plein de taxes qui n'existent plus d'ailleurs. Et en fait, l'équivalent de la Cour des comptes de l'époque avait fait des calculs, s'était rendu compte qu'en fait, ce que l'État et les collectivités locales payaient en infrastructure et en entretien n'était pas couvert finalement par les recettes sur la fiscalité de l'essence. Dans les années 60, ce débat est reparti de manière aussi vive. Et on a fait des calculs, on s'est rendu compte que c'était de nouveau le cas. Et aujourd'hui, il est très clair que la situation est encore plus distordue, parce que dans le calcul, il faudrait rajouter les dégâts de la pollution de l'air, c'est-à-dire la sécurité sociale qui prend en charge les malades de la pollution de l'air des transports, c'est l'État, c'est la collectivité qui le paie. Vous avez le dérèglement climatique avec à la fois les conséquences et puis le début de l'adaptation. Tout ça, c'est finalement le contribuable qui paie. Donc le fait de se dire, tiens, on va renchérir un peu le prix de l'essence, par exemple, oh là là, on est déjà très taxé, ben non, la réponse, c'est étonnamment non. Il faut avoir en tête, par exemple, qu'une voiture, quand on l'achète, on ne paie pas la route. La route, en fait, elle est payée par la collectivité. Que vous rouliez à vélo, à 4x4, tout ça, vous allez payer les mêmes impôts pour financer la même route. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des transports ferrés.
Donc vous, les solutions, ce serait quoi?
La solution, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens que la mobilité motorisée, et en particulier la mobilité routière et la voiture individuelle, sont en fait sponsorisées. Et du coup, se dire, bah, si on cherche du financement, mais en fait, le financement, c'est assez naturel de le trouver là. Si on avait tous conscience de ça, on accepterait peut-être beaucoup plus de se rendre compte qu'il faudrait renchérir certains moyens pour financer des choses, quitte à baisser d'autres impôts.
Oui, Hervé Brulé.
Quand on parle du financement des services, donc qui sont organisés par les collectivités, la moyenne de clés de financement, c'est ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est payé par les employeurs. Donc, c'est quand même un tiers du service qui est organisé par les collectivités, un tiers les impôts, donc la fiscalité locale normale de l'autorité organisatrice de mobilité, donc un tiers impôts, un tiers versement mobilité et un tiers l'usager qui paye le billet. Hein. Donc il faut quand même savoir qu'il y a un financement qui est quand même mixte du service de mobilité. Il ne repose pas intégralement sur l'impôt de nos concitoyens. C'est un peu plus compliqué que ça pour ce qui est du service.
Alors, dernier point avant d'arriver au terme de cette première partie de l'émission. Ce qui revient aussi souvent dans la bouche des citoyens et des usagers des transports en commun, c'est tout simplement aussi l'état des lieux. Beaucoup ont déserté les transports en commun parce que les conditions ne sont pas optimales, le temps d'attente sur des RER, sur des métros, et ils se sont reportés sur, malheureusement, le véhicule parce que les conditions n'étaient même pas dignes, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Hervé Brulé.
Oui, alors la priorité budgétaire de cette programmation et qui découle de cette loi est bien sur l'entretien des réseaux existants pour justement améliorer le service qui ensuite se branche sur les réseaux en question avec à la fois l'entretien du réseau routier, mais aussi dans une proportion beaucoup plus importante, l'entretien du réseau ferré. Hein,
alors l'entretien, la régularité, le nombre de bus, donc, parce que les temps d'attente parfois peuvent être quand même de 20 minutes, une demi-heure entre deux bus sur certaines lignes en Ile-de-France.
Il y a une question d'infrastructure, donc là c'est ce dont je viens de parler, et ensuite l'autorité organisatrice de la mobilité, elle, est en charge de mettre en place un service, mais elle a besoin effectivement d'une infrastructure de qualité pour pouvoir mettre en place un service efficace, mais c'est ensuite l'autorité organisatrice de la mobilité qui est chargée de mettre en place un transport efficace.
Donc vous travaillez aussi à ce niveau-là.
Bien sûr.
Merci à tous les deux. Merci pour au moins ces éclairages. Bien évidemment, tout sera mis en ligne sur le site de l'émission pour mieux comprendre et aller plus loin, y compris dans votre livre Laurent Castagnède, Hervor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée. Et bien sûr, vous pouvez rester avec nous. C'est la suite de notre émission avec l'œil du monde planète et l'escale verte. Et une nouveauté, chaque semaine, nous prendrons la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média, et dans l'actualité riche qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, l'œil du monde Planète n'est autre que Mathilde Gérard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre choix, Mathilde Gérard, s'est porté sur des travaux de chercheurs américains en matière d'alimentation vertueuse.
Oui, tout à fait. Cette semaine, on s'est intéressé à une parution d'une étude menée par des chercheurs de l'université Johns Hopkins à Baltimore, qui se sont intéressés au rapport entre alimentation et climat. Concrètement, ils ont analysé l'impact de 9 régimes alimentaires plus ou moins végétalisés sur le climat. Donc ces régimes, ça va de faire une journée sans viande par semaine à un régime complètement végétalien. Quand on parle de régime végétalien, c'est des régimes dans lesquels il n'y a aucun, on ne consomme aucun produit d'origine animale, donc ni viande, ni produits laitiers, ni œufs. Et ils ont analysé ces régimes au prisme des habitudes de consommation dans 140 pays. Et ils ont eu en tête de répondre à deux défis, deux enjeux particulièrement importants l'un comme l'autre. Le premier, c'est la faim dans le monde. Et le deuxième, c'est le réchauffement climatique. Et ce sont deux urgences tout aussi importantes l'une que l'autre.
Qu'ils ont fait en sorte de concilier dans leur étude, hein, c'est ça ?
C'est ça, ils ont cherché à répondre vraiment à ces deux enjeux sans en mettre un au-dessus de l'autre. La faim dans le monde, pour reprendre les grandes données, depuis 2015, c'est reparti à la hausse. On a à peu près 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, selon les toutes dernières données de la FAO. C'est une personne sur 9 actuellement. Et dans certains pays, la situation est vraiment dramatique. On a le cas de l'Inde, par exemple, qui compte une population de 1,3 milliard de personnes. Et en Inde, on a 38% des enfants de moins de 5 ans qui ont des retards de croissance. Ces retards de croissance, c'est un indicateur de santé publique qui est très suivi au niveau international parce que c'est le signe souvent de carence qui surviennent dès les premiers mois de vie de l'enfant, voire in utero pendant la grossesse. Et ça a des conséquences sur le développement cérébral de ces enfants, leur santé. Et ça peut même aller jusqu'à entraîner des morts précoces. Donc, c'est vraiment urgent de répondre à cette crise qui se passe en ce moment et de mieux nourrir ces populations vulnérables. C'est un vrai sujet de préoccupation.
Il faut dire, Mathilde Gérard, que ces 9 régimes étudiés résonnent aussi avec le rapport du GIEC du 8 août dernier. Hein. Pour rappel, donc, la chaîne alimentaire, elle pèse pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui avait été pointé du doigt dans le rapport du GIEC, justement, c'était la consommation de viande.
Oui, tout à fait. Dans ce rapport, c'était bien montré que la viande, c'est l'aliment qui pèse le plus sur les ressources de la planète. C'est un constat qui est largement partagé par tous les scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Et tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut manger moins de viande au niveau global, et notamment dans les pays développés. Chez nous, on en mange trop. Mais il y a débat pour savoir dans quelle proportion il faut réduire la consommation de viande, voire savoir s'il faut complètement l'éliminer. Et c'est là que la publication de cette semaine est intéressante, parce qu'elle permet d'apporter une réponse un peu plus nuancée à cette problématique, en montrant qu'en fait, il n'y a pas forcément de solution universelle et qu'on peut avoir des réponses qui s'adaptent au cas par cas.
Alors, idéalement, est-ce qu'il y a quand même un régime ou une consommation spécifique qui serait meilleure ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le régime végétalien, c'est celui qui a la plus faible empreinte environnementale, mais pour pouvoir être végétalien, ce n'est pas adapté à toutes les populations, parce qu'il faut avoir accès à une alimentation végétale très variée. Et puis, généralement, c'est des régimes qui doivent être supplémentés aussi en vitamine B12, qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Et la vitamine B12, on la trouve dans les produits animaux, mais pas ou très peu dans les végétaux. Donc, les végétaliens, très souvent, sont supplémentés en vitamine B12. On voit bien que ce régime-là, il n'est pas forcément adapté pour la question de la malnutrition dans les pays en développement. À l'inverse, dans les pays développés où on a accès à tout le spectre des aliments, c'est un régime qui peut être adapté. Mais les chercheurs ont aussi étudié d'autres régimes un peu plus intermédiaires qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont plus flexibles et ils sont quand même très bons d'un point de vue nutritif et aussi sur le plan de l'environnement. Ils ont notamment étudié le cas d'un régime qui serait aux 2/3 végétalien. Donc là, régime n'est vraiment pas à prendre au sens strict. Hein. C'est un scénario, une hypothèse de consommation, parce que je pense que personne ne revendique d'être aux 2/3 vegan. Mais dans ce scénario-là, on supprime tout produit d'origine animale pour 2 repas sur 3. Et on garde un repas omnivore avec une consommation assez raisonnable de produits animaux sur le 3e repas. Et en fait, c'est plus intéressant pour l'environnement, ce type de régime, que d'avoir un régime végétarien dans lequel, certes, on a supprimé la viande, mais on a maintenu les produits laitiers qui sont eux aussi fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Pour finir, il y a un autre régime intéressant étudié par les chercheurs, c'est celui où on consommerait des animaux du bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire c'est les animaux qui se font manger par les plus gros, et c'est un régime omnivore, mais dans lequel on consomme alors des insectes, c'est pas très courant par chez nous, mais plus proche de nos habitudes alimentaires, ce sont aussi les petits poissons, les sardines, les harengs, ou bien les mollusques, donc les palourdes, les moules. Et ça, c'est des régimes avec une faible empreinte carbone et qui ont des apports en protéines intéressants. Donc c'est une piste qu'explorent ces scientifiques et qui est tout à fait intéressante.
Eh bien, merci Mathilde Gérard. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je renvoie sur votre article à trouver sur lemonde.fr et via notre site, bien sûr. Et vous restez avec nous. On vous libère peut-être pour poursuivre vos enquêtes.
Merci.
À la rédaction du journal Le Monde. Quant à nous, l'escale verte.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Donc voilà, on est arrivé sur la zone où en fait j'ai fait le constat que les légumes se trouvaient mieux ici. Et justement, bizarrement, il y a la haie qui entoure, vous voyez, cette zone de légumes. À chaque fois, j'ai beau faire mes rotations, les légumes qui se trouvent dans cet environnement-là poussent mieux. Les haies, c'est un refuge pour les insectes, pour les oiseaux. Même les crapauds, les grenouilles vont sous les feuilles. Les coccinelles, elles trouvent refuge au moment où on commence à faire froid.
Car plus bas, il y a cette mare qui permet à ces fameuses grenouilles de se reproduire, mais aussi de gérer les eaux de ruissellement.
Seconde partie d'émission avec cet autre nouveau rendez-vous en cette rentrée, l'Escale Verte. Chaque semaine, nous partons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des coins, des secteurs en danger ou des lieux de paradis, des initiatives, des événements aussi. Et le tout avec des chercheurs, des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction la Normandie et le Perche pour découvrir des haies pas comme les autres. Et vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 3 Normandie le 17 février 2017 avec un maraîcher bio dans le bocage normand au Crécy. Bonjour Joël aux enfants.
Bonjour.
Vous êtes artiste et avec des projets paysagers au cœur de votre travail, entre sculpture, peinture, création scénographique, on va découvrir ça avec vous. Tout d'abord, pourquoi cet intérêt pour la nature et l'évolution de l'environnement ?
Ça remonte à une histoire personnelle de vie, si vous laissez un parcours. Voilà, j'ai commencé à faire du jardinage quand j'avais peut-être 12-13 ans, des greffes, de la pépinière d'arbres, etc. Et j'essayais d'en planter à droite et à gauche. Je récupérais des petits plants que j'identifiais dans la nature et puis j'en faisais une pépinière. Et puis dès que je remarquais quelque chose qui était un peu vide ou un peu sec ou un peu froid, eh bien je m'empressais de planter ça. Jusqu'à 25 ans, je faisais du jardinage, des greffes et des plantations d'arbres de façon un peu comme ça, spontanée.
Et vous étiez où, vous dites ?
Une région d'ailleurs de culture, c'est-à-dire le maraîchage à Viroflay, près de Versailles. Donc j'étais imprégné aussi par mes visites quasi hebdomadaires au parc de Versailles. Donc ça détermine un certain nombre de choses.
Alors vous nous emmenez aujourd'hui au contact des haies en Normandie et dans le Perche, puisque vous avez ce projet artistique de plantation de haies réalisé avec des agriculteurs de la région. Dites-nous en quoi ça consiste, quel est le principe ?
En fait, je vais au-devant de personnes qui peuvent être des agriculteurs bio, des associations, des collectivités ou des institutions. Je les appelle, je leur envoie un mail et je leur dis « Voilà, je vous propose, si vous aviez l'intention à terme de planter des haies, de vous les dessiner. » En alternant en fait les différentes essences compatibles localement avec une largeur de 10 mètres. C'est totalement arbitraire 10 mètres, mais c'est ni trop petit pour être un peu fractionné et invisible, ni trop grand pour être lassant et devenir peut-être une entrave à la biodiversité localement. Donc en fait c'est un segment qui correspond aussi à notre espace qui devient mondialement mesuré par Google, etc., par les satellites. Sauf que là, les haies alternent tous les 10 mètres des essences différentes. Et donc, ça fait un effet chamarré, un effet de rythme, qui va finalement assumer que les haies sont bel et bien un artefact. Une production humaine, une production de l'économie agricole et une production de l'histoire. Et comme nous sommes à un moment de l'histoire assez stratégique...
Avec un retour vers les haies, d'ailleurs.
Avec un retour vers les haies, mais quand même une perpétuation de l'arrachage, hein, parce que il y a des chiffres assez terribles, c'était 2 millions de kilomètres linéaires de haies dans, il y a quelques décennies, et on en est à 700 000 avec la continuation de l'arrachage.
Ah oui, parce qu'il y a eu la mécanisation, l'agriculture extensive, voilà. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un retour dans certaines zones, hein, à une agriculture paysanne de terroir, quand même, qui joue son rôle.
Alors je vais justement au devant de ces gens-là, dont j'admire énormément l'engagement. Voilà, moi je suis dans la ville, et puis je vais en vacances à la campagne, avec ma famille. Et pour des raisons en fait logistiques, pratiques, on atterrissait régulièrement dans le Perche. C'est près de Paris, voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en allant de façon quasi systématique chez des gîtes plutôt bio, de producteurs bio, j'ai pu voir comment ils produisaient, j'ai pu voir comment ils soignaient non seulement leurs animaux ou leur sol, mais aussi leur paysage. Et je trouve que c'est des gens qui s'apparentent beaucoup plus à des peintres finalement, des peintres de paysage, avec leur économie, avec leur famille, avec un sens aigu de leur responsabilité. Littéralement, je bave d'envie et d'admiration dans ces gens.
Et vous les avez embarqués dans votre projet.
Voilà. Et du coup, comme moi, je peux pas ou je ne me sens pas de me lancer comme ça, me convertir et faire de l'apiculture ou cultiver des fruits, etc. Je rêve de le faire, mais finalement par délégation avec eux. Et je rencontre une multitude de cas... très varié. En fait, il y a un maillage extraordinaire qui est en train de se faire d'actions, de gens très intéressants qui ont une vision, vraiment.
Et si j'ai bien compris, vos haies proposent aussi des textes qu'on peut lire ?
Alors, il y a un versant, je dirais, théorique de ces haies qui sont une installation que j'ai construite pour une exposition qui a commencé donc à l'écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière en octobre 2018. Pendant un an et demi, j'ai préparé cette exposition en me disant que je ne voulais pas faire une exposition explicative de mon projet. Je voulais pas mettre des grands tirages de mes projets faits sur Photoshop avant qu'on plante, etc. Je voulais créer une pièce artistique qui, en fait, invite les spectateurs à méditer, à rêvasser, à arpenter, à l'intérieur comme à l'extérieur, une haie ou des haies. Du coup, c'est le même nom, hein, ce sont des haies elles aussi, mais elles sont en fait dans une charpente en bois et aluminium. C'est des tubes comme un barnum ou comme du camping, que j'ai bien pratiqué dans ma jeunesse. Et du coup, les toiles de tente, on va dire, ou ces toiles, prennent la forme rectangulaire d'une haie qui serait taillée. Et chacune de ces grandes bâches comporte des textes à l'intérieur de la haie, comme si on pouvait passer comme dans un couloir, ou à l'extérieur, de trois auteurs dont j'ai prélevé des extraits. Alors il y a Michelangelo Pistoletto, qui est un artiste de l'Arte Povera que j'admire beaucoup et avec qui je suis en contact. Et là, on va faire une exposition en octobre à Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto à Biella en Italie, en octobre. Valérie Cabanès également. Je revenais d'un agriculteur qui voulait planter de mes haies, qui les a plantées d'ailleurs, que je me suis garé sur le côté pour noter. Et je voulais lire ce livre. Je l'ai demandé à ma médiathèque dans ma ville. Et puis, j'ai découvert un état des lieux d'une extrême clarté.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Valérie Cabanès est juriste et spécialiste du droit de la terre, donc, et de l'écocide.
Voilà, c'est un mot écocide qui maintenant rentre dans le langage politique officiel, mais reste à savoir si c'est suivi des faits. Mais effectivement, c'est un véritable écocide. Et du coup, je trouvais intéressant de citer ces deux extraits-là. Très agrandi, plus un troisième extrait, celui d'une amie philosophe, Margojata Grigilevic, qui enseigne dans une école d'art à Angoulême et qui travaille sur la question du jardin dans la pensée la plus reculée, la plus antique. Donc j'ai voulu travailler avec ces trois textes en me disant que c'était trois angles par lesquels prendre la question et du paysage et de la responsabilité humaine et de la notion de jardin, au sens où nous avons un rôle à jouer.
Ces haies, du coup, c'est une véritable création, une œuvre qui évolue forcément dans le temps. Elles retrouvent leurs vertus, on imagine, réduire le ruissellement, favoriser l'infiltration dans les sols, c'est aussi un brise-vent, ça abrite des écosystèmes extrêmement riches, les insectes, les oiseaux, etc. Est-ce que vous suivez l'évolution de votre œuvre ?
Oui, là on était retourné cet été à l'endroit où on avait planté ce printemps. On a vu qu'il y avait une certaine mortalité, il y avait beaucoup d'herbes qu'il fallait faucher, etc. Donc oui, je suis autant que possible les réalisations, mais il faut voir qu'on vient de commencer. C'est-à-dire que c'est un projet qui a 5 ans de travail, de contact, mais après, pour obtenir les aides et vraiment avoir des agriculteurs ou des partenaires qui se trouvent disponibles là, à l'instant T, pour le faire vraiment au moment du rendez-vous des dates de plantation dans l'année, c'est pas évident. Certains ont un hangar à finir, d'autres ont une maladie dans leur lait ou des choses comme ça. Donc il y a des reports, mais je suis patient et en réalité, le projet essaime un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux agriculteurs ou des nouvelles associations ou des nouvelles villes maintenant qui s'intéressent au projet.
Et alors au-delà du projet, j'ai cru comprendre que vous travaillez aussi, Joël aux enfants, sur des projets avec des collèges, des lycées, de la banlieue parisienne, notamment à Montrouge, Bagneux.
J'habite effectivement dans cette banlieue-là. Je fais en moyenne 1 kilomètre, moi, entre chez moi et mon lieu de travail. Et j'y vais en vélo. Et je travaille à temps partiel choisi pour pouvoir être artiste à côté et trouver de l'argent pour ces projets, par ces projets aussi. Mais par exemple, dans le collège où j'enseigne à Châtillon, il y a un projet que j'ai mené avec mes élèves. Donc je leur ai dit, cette année, nous allons travailler à partir du troisième paradis de Michelangelo Pistoletto, qui est ce signe dans lequel on a 3 lobes, un peu à l'imitation d'un signe infini, mais il y en a 3 au lieu de 2, dans lequel un des lobes représente la nature intouchée par l'homme, la vie, pas insouciante, hein, très dure et très difficile des premiers hommes. Ensuite, le deuxième, en face, à l'opposé, se trouve être la technologie qui détruit la nature. Et il nous faut, dit Pistoletto, inventer un troisième paradis, c'est-à-dire l'usage raisonné, raisonnable, intelligent et responsable des techniques pour vivre encore sur cette terre. Et en fait, il laisse libre de droit ce signe à toutes les initiatives artistiques ou sociales qui mettent en avant ces objectifs-là, ce qui a été le cas pour le collège.
Merci Joël aux enfants.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, tout ce qui concerne Joël aux enfants, exposition, les présentations en cours, les informations aussi sur l'émission Biographie, les liens, tout est à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute, à volonté également. Et je vous précise que la semaine prochaine, à l'occasion du rapport du GIEC et du dévoilement du volet français de ce nouveau rapport, nous parlerons anthropocène et tout ce que cela induit sur nos vies à l'échelle mondiale. Nous serons avec François Gemène et Marie Carriga. Et dans un instant, bien sûr, vous restez à l'écoute des programmes de France Culture. Vous avez rendez-vous avec Être et Savoir et Louise Touré.